Alors le deuxième trait qui dérange l'horizon d'attente esthétique, après ce roman encyclopédique, c'est l'impression d'être face à une nouvelle prose narrative, et c'est une conséquence directe de cet encyclopédisme avec, j'y faisais allusion en préambule, l'intrusion massive de vocabulaire technique. Un Balzac écrit avec toute la langue française. Avec lui, la notion de français littéraire, cette curieuse notion que nous trouvons encore dans nos dictionnaires, quand on voit le classement des acceptions, vous pouvez avoir populaire, familier, puis parfois littéraire. Donc il y a cette idée qu'il y aurait des mots qui seraient plus littéraires que d'autres. Et Balzac, ici, s'inscrit vraiment dans le roman, dans le moment romantique de cet élargissement de la langue. On trouve la même chose chez Victor Hugo au même moment. Pensons au fameux poème de Victor Hugo, « Réponse à un acte d'accusation » dans Les Contemplations, où Hugo, à ce vers, « Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire », où il utilise la métaphore politique pour dire qu'il y a ce geste révolutionnaire de séparer, de supprimer la séparation entre les mots nobles et les mots roturiers. Hugo file la métaphore dans ce poème. Donc une sorte de démocratisation de la langue rendue nécessaire par le fait que la société est en train de se démocratiser après la Révolution française. Donc l'idée d'un bon usage et d'un bon goût est remise à ce moment-là en question. Et les jargons, ce qu'au XVIIe siècle on eût appelé les jargons, avec tout le mépris que le terme contenait, les jargons s'associaient aux pédants, les jargons auront leur place dans le roman balzacien. N'écrivant pas des romans d'analyse centrés uniquement sur la psychologie des personnages, sur la science du cœur, Balzac a besoin, au-delà de la langue des sentiments, de toute la langue. Et d'autant qu'il ne décrit pas un seul milieu, le milieu aristocratique ou le milieu bourgeois, mais donc tous les milieux. Et il faut les saisir avec leur langage propre. Dans un récit intitulé « Madame Firmiani », Balzac écrit « Aujourd'hui, notre langue a autant d'idiomes qu'il existe de variétés d'hommes dans la grande famille française. » Vous voyez comment on passe de la langue française à une idée de langage dans la langue. La langue est plurielle. Elle contient une diversité de voix. Et on pourrait parler donc d'un style démocratique de Balzac en ce sens qu'il intègre cette pluralité de voix. Alors il l'intègre doublement, il l'intègre dans sa phrase narrative, puis il l'intègre aussi dans les dialogues. Dans sa phrase narrative, parce que Balzac aime à faire des emprunts qu'il signale parfois à des langages extérieurs, les linguistes diraient à des sociolectes ou à des parlures. J'en donne quelques exemples de ces incises de Balzac. Pour se servir d'un mot à la mode, pour nous servir d'une expression populaire, pour se servir du terme de la langue bourgeoise, pour se servir d'une expression commerciale, etc. Vous voyez, il signale ces emprunts, donc il signale d'autres manières de parler. Il signale des sociolectes ou des parlers professionnels. Et c'est ce style, et donc ce style dit les différentes manières de voir et de parler le monde. Ce style fait que le roman balzacien n'est pas monologique, comme par opposition donc à dialogique, pour reprendre donc une opposition qui vous est peut-être familière de Bakhtine sur le roman monologique, le roman dialogique, donc cette polyphonie qu'il y a dans le roman balzacien, non pas roman à une voix, mais à plusieurs voix. Et je dirais que Mémoire de deux jeunes mariés en est aussi un exemple, dans la mesure où ça pourrait paraître une polyphonie minimale. Nous avons deux voix, celle de Louise, celle de René, dans ce roman épistolaire. Elles échangent des lettres. Mais ces voix elles-mêmes sont clivées puisqu'à certains moments, hein, René est fasciné par Louise, à d'autres, Louise se dit bon, qu'elle aurait mieux fait de vivre comme René. Donc chacune écoute le langage de l'autre et les deux langages ne sont pas toujours pleinement assurés. Donc on a ce dialogue complexe, dialogue avec l'autre, dialogue avec soi-même dans cette polyphonie des deux jeunes mariés. C'est de conséquence, je vous le disais, pour les phrases du narrateur, mais aussi pour la facture du dialogue balzacien. On peut dire qu'il y a un réalisme linguistique de Balzac qui tente de faire parler les personnages dans la langue de leur groupe social, dans leur sociolecte. Ils captent le langage bourgeois avec ses prosaïsmes, le langage noble avec ses élégances surannées. Vous vous souvenez peut-être de ce petit détail dans Mémoire de deux jeunes mariés où Louise, à un moment donné, utilise un imparfait du subjonctif avec une désinence un peu lourde et s'en excuse auprès de René tout en étant en même temps satisfaite d'avoir fait la concordance des temps. Donc on a ce langage élégant que l'on entend dans les romans balzaciens quand il s'agit de mettre en scène des personnages aristocratiques et plus encore les personnages des vieux aristocrates qui représentent l'art défunt de la conversation, l'esprit du XVIIIe siècle, que l'on entend un peu comme une rumeur, comme cela, dans le roman de Balzac. Donc la parole permet, elle aussi, de distinguer les milieux. Vous voyez, tout comme les habitats séparent les gens. Bon, il y a la parole des salons, par exemple, par opposition à la parole des boutiquiers. Dans la maison du chat qui pelote, Maître Guillaume, le drapier, ne parle pas comme on parle dans un salon aristocratique. Donc ce n'est pas seulement affaire de pittoresque, vous voyez, ça va au-delà du mot inconciliable dans la bouche de Jonatas, le serviteur de Raphaël, ou ça va au-delà du patois alsacien du baron de Nucingen dans les différents romans de Balzac. La parole renvoie à des manières de penser. Et le dialogue est ce lieu d'affrontement de vision du monde. Si on prenait, par exemple, les personnages féminins, on ne peut pas dire qu'il y a un langage féminin de Balzac. Toutes les femmes ne parlent pas de la même façon. Il y a le style de la grande dame, le style de la bourgeoise, le style de l'actrice, le style de la concierge. Par exemple, dans le dernier roman de Balzac, Le cousin Ponce, il y a un personnage important, Madame Cibot, qui est une concierge que l'on entend parler abondamment dans ce livre. Et dans Mémoire de deux jeunes mariés, Louise reproche à un moment donné à René de parler en bourgeoise, justement parce que René s'occupe un peu trop des questions d'argent. Donc, vous voyez, elle déroge aussi dans son langage. Elle ne parle plus la langue de sa caste, elle se met à parler comme une bourgeoise. Ou autre exemple encore de cette question du langage et des subtilités qui distinguent, le jeune homme balzacien, quand il pénètre dans le grand monde, dans cette sorte de rite de passage, doit en apprendre le langage. Au début, il est toujours un peu gauche. Déjà, il s'est mal vêtu, erreur, donc dans le vêtement. Et en plus, bon, il ne maîtrise pas le code linguistique. Donc, il entend des mots spirituels autour de lui, il n'ose pas trop parler. Le fameux art de la conversation est aussi un art de se taire. Et Rastignac, par exemple, l'apprend dans Le Père Goriot, puisque dans une scène, il se rend à l'hôtel de monsieur et de madame de Restaud. Il ne sait pas que madame de Restaud est une des filles du père Goriot. Il est même un peu surpris de voir, quand il arrive, le père Goriot sortir de ce bel hôtel. Il se demande ce que son, son compagnon de la pension voquée, de la modeste pension voquée, peut bien faire là. Donc il entre, la conversation commence, et à un moment donné, il va parler de ce qu'il a vu en entrant. Et il parle du père Goriot. Et à ce moment-là, M. de Restaud lui dit, vous auriez pu dire monsieur. Donc Rastignac, il vient de commettre un impair. Il ignore le secret de famille. M. de Restaud a épousé, a dérogé lui aussi. Il a épousé pour son argent la fille du père Goriot. Et Rastignac va se trouver consigné. Il a raté son rite de passage. Et donc il ne sera plus admis dans la maison des Restaud. Donc la phrase balzacienne s'intéresse à tous les sociolectes et fait entendre cette Babylone des langages qu'est la société bourgeoise du XIXe siècle, avec une diversité des voix donc, que l'on n'entendait pas sous l'Ancien Régime et qui émergent donc, dans la société démocratique. Donc on peut dire qu'à défaut d'être le porte-parole d'un de ces langages, Balzac en est le porte-voix. Alors, cela donc se marque aussi, je le disais, dans son style composite, d'où l'impression pour les premiers lecteurs d'un livre sans unité de ton et la réputation durable de Balzac en grand écrivain ne sachant pas écrire. Par exemple, c'est ce que dit Sainte-Beuve, le grand critique du XIXe siècle, qui a toujours été dur avec Balzac. Mais dans un article, je crois que c'est à propos du Lys dans la vallée, il écrit « Monsieur de Balzac n'a pas le dessin de la phrase pure, simple, nette et définitif. Il revient sur ses contours, il surcharge. » Alors cette idée d'une phrase lourde où les morceaux se raccrochent mal avec des parenthèses, des incises, est une idée qui revient souvent dans le dossier de presse contemporain de Balzac. Et ça renvoie effectivement à des choses que l'on peut constater quand on regarde la genèse des romans balzaciens. Balzac est quelqu'un qui corrige sans cesse. Qui corrige sur épreuve. Il y a sans cesse des va-et-vient de l'éditeur vers Balzac. Il y a un premier jeu d'épreuve, Balzac rajoute des choses, il renvoie, deuxième jeu d'épreuve, ça coûtait cher en plus à l'époque, ainsi de suite. Et quand il réédite ses textes, même chose, il continue toujours de rajouter. Il n'est pas quelqu'un qui rature, à la différence de Flaubert. Et c'est au point que aujourd'hui, par exemple dans l'édition de la Pléiade, quand on édite les œuvres complètes de Balzac, on édite ce qu'on appelle le Furne corrigé, du nom de l'éditeur Furne, où était parue la seule édition de la Comédie humaine du vivant de Flaubert, de Balzac, entre 1842 et 1846, donc l'édition Furne, et Furne corrigée parce que Balzac avait son exemplaire de cette édition, et sur son exemplaire, jusqu'à sa mort, il avait encore rajouté des choses, et donc on intègre, aujourd'hui, on considère que le texte définitif, c'est le Furne plus les ajouts que Balzac avait encore faits. Donc il n'y a jamais assez de mots pour appréhender le 19e siècle remuant, dont parlait la préface à une fille d'Ève. Flaubert, donc, qui à l'opposé est l'homme de la rature, l'homme du mot juste, parachèvera ce scénario d'un Balzac au style gauche. C'est dans une lettre à Louis Collet en 1852, Flaubert n'a encore rien publié, il est en train d'écrire Madame Bovary, mais donc avec l'insolence de sa jeunesse, il écrit « Quel homme eût été Balzac s'il eût su écrire ?» Mais il ne lui a manqué que cela, excusez du peu. Un artiste, après tout, n'aurait pas tant fait, n'aurait pas eu cette ampleur. Il y a là une opposition intéressante entre l'artiste et l'écrivain. Et le mot artiste, sous la plume de Flaubert, c'est l'artisan, dans la lignée de Boileau et de La Bruyère, celui qui cisèle la phrase, un artisan de la phrase. Alors que l'écrivain, tel Balzac, et aux yeux de Flaubert, Hugo relève de la même analyse, l'écrivain, parce qu'il est engagé dans son époque, n'a pas le temps de bien écrire. Il est là tout à l'urgence de sa tâche, écrire près d'une centaine de récits pour décrire le XIXe siècle extrêmement, extrêmement remuant. Alors le troisième aspect que l'on trouve dans le dossier de presse, c'est donc cette question de la morale, cette idée que le roman balzacien serait un roman sceptique. Comment situer moralement, mais aussi politiquement, les romans de Balzac? Quel message, quelle leçon en tirer? Voilà la question que se reposent sans cesse les journalistes sans jamais trouver de réponse. Balzac est un écrivain immoral ou amoral. Alors je rappellerai tout d'abord les positions de l'homme Balzac avant de revenir à la lecture de son œuvre. Ces positions, on peut les connaître facilement à travers la correspondance, à travers les articles de journaux ou les préfaces, où il y a parfois comme cela des professions de foi. Donc sous la Restauration, avant 1830, Balzac a été un libéral. Alors, au sens que le mot libéral a à ce moment-là, c'est-à-dire un progressiste, un homme de gauche, un homme de la bourgeoisie héritière des Lumières, de l'esprit de 1789, donc opposant évidemment à la Restauration, au règne de Louis XVIII et plus encore de Charles X. Donc il combat la société aristocratique à ce moment-là. Après la Révolution de 1830, il est vite déçu par cette révolution de juillet, où pourtant triomphent les idées de la bourgeoisie libérale. Donc on pourrait dire que pour lui, c'était le moment, au fond, où il y avait coïncidence entre ce à quoi il croyait et le nouveau pouvoir. Et donc il va prendre ses distances à l'égard du régime de Louis-Philippe, qu'il va représenter comme un régime de la médiocrité, ce régime donc centré uniquement sur les intérêts matériel, et vers 1832, il y a la conversion légitimiste, où Balzac donc, va se poser comme attaché à l'esprit, à un esprit contre-révolutionnaire. Il va donc adhérer à ce qu'il rejetait quelques années auparavant. Et La peau de chagrin est un roman intéressant pour cela, puisque le roman paraît fin 1830, donc Balzac est dans une sorte d'entre-deux, dans le moment où déjà, il va se détacher du libéralisme et où il n'est pas encore le monarchiste catholique qu'il va bientôt devenir. Et c'est cette posture du royaliste catholique qu'il va affirmer ensuite dans son avant-propos à la Comédie humaine. Dans son avant-propos à la Comédie humaine, il rattache son œuvre aux piliers de la société, que sont la religion, la monarchie et aussi la famille. Donc il présente son œuvre comme un ensemble de romans à thèse. Je cite cette phrase de l'avant-propos, « J'écris à la lueur de deux vérités éternelles, la religion, la monarchie, deux nécessités que les événements contemporains proclament et vers lesquelles tout écrivain de bon sens doit essayer de ramener notre pays. » Voilà, il y aurait une sorte de mission idéologique de l'écrivain, ramener la nation vers un idéal perdu. L'idéal donc, du catholicisme, de la royauté, et Balzac, un peu plus loin dans l'avant-propos, y ajoute la famille en se référant à un penseur contre-révolutionnaire qui s'appelle Bonald, et ceux d'entre vous qui travaillent sur Mémoire de deux jeunes mariés auront rencontré ce nom, puisque René le cite à plusieurs reprises, pages 185, 186 et 356, pour ceux qui voudront s'y référer. Un Mémoire de deux jeunes mariés date de 1842, la même année que l'avant-propos. Donc on a cet autoportrait de Balzac en écrivain contre-révolutionnaire, délivrant un message univoque. Ça, c'est son intention. Mais les premiers lecteurs, lisant les textes, ne lisent pas du tout cela. Ils voient en lui un anticonformiste. Pour ce qui est du catholicisme, par exemple, l'œuvre de Balzac, à partir de 1842, a été mise à l'index. Donc vous savez que à Rome, il y avait cette commission pontificale qui statuait sur les œuvres. Ça reposait sur un système de délation. Quelqu'un signalait des passages douteux dans une œuvre, la commission se réunissait, ne lisait pas l'œuvre, mais lisait les passages incriminés, et à partir de ces passages incriminés, déclarait que l'œuvre ne devait pas être lue et ne devait pas être diffusée. Il y avait cette prescription morale qui pouvait influencer effectivement un public catholique. C'était péché, c'est ce que signifie cette mise à l'index, c'était péché de lire Balzac, comme Madame Bovary sera mise à l'index, comme les œuvres complètes de Zola seront mises à l'index. L'index est disparu au début des années 1960, au moment de Vatican II. C'est intéressant cette question de l'index, puisque justement les archives ont été ouvertes il y a quelques années. Il y a un collègue, Jean-Baptiste Amadieu, qui a été lire ces archives et qui a fait une thèse un petit peu sur la façon dont les œuvres ont été mises à l'index pendant un siècle et demi. Alors, du point de vue des contemporains, le récit de Balzac se réduit à une morale à la portion congrue, pourrait-on dire, et surtout une morale qui n'est pas mise en valeur parce qu'elle est incarnée fugitivement par des personnages secondaires et non pas par les héros. Donc on a un système des personnages mal balancé. Dans l'horizon d'attente traditionnel, on s'en remet aux héros pour trouver des valeurs de référence. Le héros positif, voilà celui qui apporte un idéal. Dans le roman balzacien, il n'y a pas de personnage de référence suffisamment présent pour représenter une norme sociale, pour être le porte-parole d'une vérité auquel le lecteur pourrait s'identifier. Gachon de Molène, que je citais tout à l'heure pour son article sur Illusion perdue, essaie de se raccrocher à un personnage secondaire en lisant ce roman de Balzac. Mais c'est un personnage qui n'apparaît que dans quelques scènes. C'est cette sœur de Lucien de Rubempré, Ève. Et à propos d'Ève, il écrit donc ceci. Ève est la seule figure intéressante du roman parce qu'elle est la seule honnête. Ça nous révèle aussi, vous voyez, l'horizon d'attente d'un lecteur du XIXe siècle. Pour qu'un personnage soit esthétiquement probant, il faut que ce soit un personnage bien pensant. Le jugement moral fait le jugement esthétique. Mais donc, justement, le point crucial, c'est qu'à l'opposé d'Ève, personnage quand même assez falot dans ce roman, à la faible présence textuelle en tout cas, les personnages qui ont du relief, les personnages qui sont réussis esthétiquement, qui vont rester dans notre mémoire, sont les personnages immoraux. Si je garde l'exemple d'Illusion perdue, Vautrin a une autre présence que celle d'Ève de Rubempré. Et si je prenais l'exemple de Mémoire de deux jeunes mariés, là aussi on sent une dissymétrie entre les deux personnages. René pourrait apparaître comme le porte-parole, la porte-parole de Balzac, avec son éloge de la famille comme pilier de la société. Mais dans le roman, je dirais qu'elle n'a pas d'intérêt romanesque, elle est sans histoire. À chaque fois qu'elle apparaît, c'est pour nous dire, bon, pour nous dire où en sont ses finances. Alors que le personnage séduisant, c'est le personnage de Louise, la Louise flamboyante. Et Sand, lisant le roman de Balzac, lui en fait la remarque. « Vous prouvez tout l'opposé de ce que vous voulez prouver », lui écrit-elle. Et ma foi, Balzac, lui répondant, est obligé de lui dire « Vous avez raison, cher, soyez tranquille, nous sommes du même avis. J'aimerais mieux être tué par Louise que vivre longtemps avec René. » Voilà, donc, voyez, Balzac, lecteur de lui-même, ne peut plus même croire à sa démonstration de roman à thèse. Alors, un article d'Hippolyte Castille le soulignera en 1846. Là aussi, cet article est dans ce volume. C'est un article intéressant parce qu'Hippolyte Castille, vous voyez, écrit cela en 1846, donc à un moment où il a lu toute la comédie humaine. Jusqu'alors, la ligne de défense de Balzac pour dire « je ne suis pas un écrivain immoral », c'était de dire « au fond, vous me jugez à partir d'un morceau de mon œuvre, mais quand vous aurez tout entre les mains, vous verrez bien ». Hippolyte Castille a tout entre les mains, mais voici ce qu'il conclut « Monsieur de Balzac est le chantre du désespoir ». Donc il heurte la conception traditionnelle de la littérature comme exprimant un idéal ou, à défaut, fournissant une consolation. Balzac nous montre une humanité méprisable, même si la comédie humaine apporte quelques figures de consolation, et on s'aperçoit dans le dossier de presse qu'à mesure que les journalistes reviennent sur l'œuvre de Balzac, il trouve en gros deux figures à sauver. Eugénie Grandet, qui est souvent citée comme cette représentante d'une morale droite, et puis Madame de Mortsauf. Et encore pour Madame de Mortsauf, il y a le problème de sa mort, elle crie sa chair parle, elle crie son désir pour Félix. Mais en nommant ces deux figures, Eugénie Grandet et Madame de Mortsauf, force est aussi de constater qu'elles ne connaissent pas le bonheur. Ces figures de la vertu prêchent dans le désert. Balzac ne représente pas un romanesque à l'eau de rose qui aurait pour dénouement le vice puni et la vertu récompensée. C'est même souvent l'inverse dans ses livres. Et il faut y entendre une rude prise à partie de son époque. Nous sommes dans un monde à l'envers. C'est ce message qui est dérangeant, et particulièrement auprès de la bourgeoisie libérale, dont les mots valeurs sont progrès, civilisation. Les romans de Balzac nous questionnent. Qu'en est-il du progrès ? Qu'en est-il de la civilisation bourgeoise ? Alors, devant ce déficit de présence des figures de la morale, Hippolyte Castille dit son malaise à subir la séduction esthétique des figures du mal, comme Vautrin. Cette figure vigoureuse comme les grandes silhouettes de l'Odyssée, écrit-il. Il y a un sublime romantique du mal à travers certaines figures héroïques de Balzac. Et un sublime du mal qui nous attire parce qu'il jaillit au milieu d'un monde de la médiocrité. Il y a peut-être quelque chose d'analogue là aussi chez Stendhal, dans Le Rouge et le Noir. Julien est un personnage ambigu, mais il est du côté du sublime. Et par là même, il vaut beaucoup mieux que tous les médiocres qui l'entourent. Donc ces héros ambigus ne sont pas le héros positif qui propose des valeurs, comme ça pouvait être le cas dans le roman de chevalerie, où l'honneur, l'amour, la fidélité sont des valeurs incontestables posées par ces romans. Donc le roman de chevalerie est une littérature de confirmation qui renvoie à son lectorat une image gratifiante de lui-même. Et sans doute, Vautrin irrite-t-il aussi parce qu'on sent que c'est lui, le bagnard en rupture de ban, le hors-la-loi, qui est le personnage porte-parole, qui dit que l'immoralité est aussi du côté de la société, sans autre valeur que la réussite à tout prix. Il suffirait de relire ses discours à Rastignac dans le Père Goriot, qui retentissent comme des moments de vérité. Ces discours nous retiennent. Nous ne les lisons pas simplement comme les paroles d'un cynique, comme des paroles provocantes. Vautrin dit quelque chose de la société de son temps. Par exemple, quand il évoque la concurrence des jeunes gens ambitieux, désireux de parvenir, il dit à Rastignac, « Il faut vous manger les uns les autres comme des araignées dans un pot. » Cette maxime désigne ce qui s'appellera bientôt le darwinisme social. Cette idée que la société est un combat pour la vie, où c'est malheur aux vaincus, qu'il faut savoir s'adapter, sinon on ne survit pas. Et le narrateur profère parfois lui-même cette morale. Dans Le Cousin Ponce, il semble faire écho à la parole de Vautrin. À Paris, surtout depuis 1830, ici la date est intéressante, vous voyez, on retrouve ce moment de la fracture, ce moment où la société libérale bourgeoise s'impose. À Paris, surtout depuis 1830, personne n'arrive sans pousser. Et très fort, une masse effrayante de concurrents. Donc s'il n'y a pas d'idéal dans le roman balzacien, c'est que la société moderne est dépourvue d'idéal, qu'elle a perdu toute croyance, qu'elle a perdu tout projet collectif. C'est une société incrédule, avec une morale de l'individu, une morale du chacun pour soi, les araignées dans leur peau. Et c'est un refrain de Vautrin et de Balzac dans la Comédie humaine. Le succès fait l'honnêteté. Réussissez et vous serez considéré comme un homme exemplaire. Vautrin le dit à Rastignac. Et c'est cette petite musique désagréable qui parcourt toute l'œuvre. Si Vautrin répugne, ce n'est pas parce que c'est un forçat, c'est parce qu'il dit les dures vérités du présent qui marchent. En regard de quoi, Balzac sent bien que ces vérités éternelles ne sont plus de saison. L'éternité a pris un coup de vieux en juillet 1830. Alors la question de la morale des personnages et de la morale du récit s'intensifie encore quand on passe au plan politique. Et l'on voit bien comment les deux, en fait, sont liés effectivement. On perçoit alors fortement la tension entre la morale affichée, les fameuses vérités éternelles, et la morale qui se dégage des récits. La morale du récit n'est pas réductible à la morale de l'auteur. Le message de la Comédie humaine n'est pas contre-révolutionnaire, mais lucide sur le sens de l'histoire. Cette contradiction relevée entre les intentions de l'œuvre et l'œuvre elle-même sera fortement soulignée par les lectures marxistes de Balzac au XXe siècle. Balzac va devenir, au fond, le grand réaliste aux yeux de la critique marxiste, justement parce qu'il ne sera pas lu comme un écrivain contre-révolutionnaire, mais comme un analyste lucide de la société bourgeoise du XIXe siècle. À titre d'illustration de ces lectures marxistes, j'en citerai une qui appartient au XIXe siècle, une lettre de Engels en 1888, où il parle de Balzac. Que Balzac ait été contraint de la sorte à agir contre ses propres sympathies de classe et ses préjugés politiques, qu'il ait vu que la décadence de ses chairs nobles était inévitable, et qu'il les ait dépeints comme des êtres qui ne méritaient pas un meilleur destin, et qu'il ait vu les vrais hommes de l'avenir, là où l'on pouvait à l'époque seulement les voir, à savoir donc dans la bourgeoisie, voilà ce que je considère comme l'un des plus grands triomphes du réalisme. Donc il y aurait chez Balzac cette sorte d'honnêteté intellectuelle qui fait que quand il cherche à être l'historien des mœurs, il va au-delà de son idéologie personnelle. Et il raconte le triomphe de la bourgeoisie libérale, fût-ce sur le mode de la déploration. Il prend acte du présent qui marche irrévocablement. Et aux yeux de Engels, en 1888, il lui manque seulement de voir la nouvelle force d'avenir qui n'est pas encore présente dans la comédie humaine, dans la société pré-industrielle de la comédie humaine, qui serait le monde ouvrier. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on retrouve l'interprétation proprement marxiste. Alors je cite ce propos de Engels parce que, en consonance, Zola va faire une analyse très semblable. En 1870, à l'occasion d'une republication des œuvres complètes, enfin de la comédie humaine, de Balzac. Donc Zola écrit un article dans un contexte intéressant, Zola républicain, opposant au Second Empire, c'est en 1870, quelques mois avant la guerre de 70 et l'effondrement du Second Empire. Donc c'est un article, je dirais, à la fois de chronique littéraire, mais aussi de chronique politique. Zola a en tête la société du Second Empire et il se prépare à écrire les Rougon-Macquart aussi à ce moment-là. Et Zola donc, tient la thèse que Balzac, le Balzac de la comédie humaine, est un démocrate malgré lui, dont l'œuvre est traversée par le souffle de la Révolution. Donc il va faire même un pas de plus que Engels, vous voyez, en disant bon, c'est un démocrate. Le royaliste est un démocrate. Le catholique est un libre penseur. Qui dit cela? La comédie humaine. Certes, Zola constate que le peuple est absent. Et ce sera sa différence avec Balzac, sa différence à lui dans les Rougon-Macquart, que d'intégrer ce peuple. Par exemple, dans l'Assommoir ou dans Germinal, le personnel romanesque va s'élargir à une nouvelle composante apparu avec la révolution industrielle sous le Second Empire. Donc le peuple est absent, mais la nécessité de sa présence, de la présence d'une nouvelle force d'avenir, se fait, pour ainsi dire, sentir dans la comédie humaine. Voici les mots de Zola. Dans ce monde, la bourgeoisie et l'aristocratie seules sont représentées. Le peuple, l'ouvrier, n'apparaît presque jamais. Mais comme on entend au loin la voix du grand absent, comme on sent sous toutes les ruines amassées la sourde poussée du peuple qui va jaillir à la vie politique, à la souveraineté. Donc on pourrait dire qu'il y a là une récupération de Balzac par Zola, vous voyez, une manière de dépasser la porie, puisque l'aristocratie n'a pas d'avenir, la bourgeoisie ne représente pas un avenir désirable. Donc il faut trouver autre chose. Et donc Zola, en tout cas, explique pourquoi le roman balzacien apparaît aporétique. Ni les personnages de l'aristocratie, ni les personnages de la bourgeoisie ne sont des modèles. De là, le fait qu'effectivement, dans le dossier de presse, les premiers lecteurs, qu'ils soient d'obédience légitimiste ou qu'ils appartiennent à la bourgeoisie orléaniste, à la bourgeoisie Louis-Philipparde, détestent Balzac. Les deux camps ennemis voient en Balzac un ennemi commun. Turpitude ou palinodie de l'aristocratie, d'un côté, René qui se rallie au roi bourgeois, de l'autre, une bourgeoisie à l'esprit étroit, animée seulement par la passion des biens matériels, pour reciter encore Tocqueville, incapable de rien fonder de durable. Donc on a cette sorte de dos à dos, hein, entre un modèle de société caduque et un autre peu enviable. Et Zola donc tire alors sa conclusion par extrapolation, si l'on veut, je le cite de nouveau, « Ainsi, satire de l'aristocratie et de la bourgeoisie, hein, satire, ce mot est intéressant, je le reprendrai dans un instant, satire de l'aristocratie et de la bourgeoisie, spectacle de la mêlée contemporaine, exposition dramatique de la situation présente, entre un passé à jamais fermé et un avenir qui s'ouvre, telle est la comédie humaine, au fond, dans une gloire, il me semble apercevoir la République. » C'est extraordinaire, parce que quand même, vous voyez, encore une fois, nous sommes à quelques mois, effectivement, de la proclamation de la République, hein, après la défaite de Sedan. Donc, c'est vrai qu'en 1870, hein, la relecture de Balzac a tout à coup une formidable actualité. Hein, Balzac continue de parler du présent qui marche, hein, 20 ans après sa mort. Donc le roman balzacien n'est pas un roman à thèse, il est un roman satirique. Et je crois que c'est effectivement la bonne étiquette pour le désigner, et c'est l'étiquette que Balzac lui-même employait quand il était dans cette sorte de nulle part idéologique dont je vous parlais tout à l'heure, hein, quand il n'était plus le libéral qu'il avait été sous la Restauration, et qu'il n'était pas encore le légitimiste qu'il serait à partir de 1832, donc au moment de la peau de chagrin, hein, où, dans la préface, il réfléchit à la situation de l'écrivain moderne dans un monde désenchanté, qui n'a pas de valeur à célébrer, hein, de ce point de vue, Balzac ne se pense pas comme le mage romantique à ce moment-là. Il n'a pas de programme à donner à la société. Et voici ce qu'il écrit donc dans cette préface, page 57. Le monde nous demande de belles peintures. Où en seraient les types? Vos habits mesquins. Notez l'adjectif possessif ici, hein, vos habits mesquins, hein, qui prend à partie le lecteur. Voyez, donc, c'est aussi intéressant, hein, non pas la captatio benevolentiae, hein, mais cette situation de confrontation avec le lecteur, hein, d'opposition au lecteur. Hein, il ne s'agit pas de le flatter. Vos habits mesquins, vos révolutions manquées. Ici, référence à la révolution, évidemment, de juillet 1830, hein, qui a été effectivement un peu un marché de dupes, puisque on pensait qu'une république allait surgir du renversement de Charles X, et puis finalement, donc Lafayette conduit Louis-Philippe à l'hôtel de ville, et c'est Louis-Philippe qui est proclamé roi, ou quasi-roi, roi bourgeois, comme on le surnommera en son temps. Vos bourgeois discoureurs, vos religions, votre religion morte. Donc là, ça n'est pas le Balzac catholique, hein, votre religion morte, vos pouvoirs éteints, vos rois en demi-solde, allusion à Charles X qui est parti en exil. Sont-ils donc si poétiques qu'il faille vous les transfigurer? Donc vous voyez, on ne peut pas parler au nom de la religion, au nom du roi déchu, on ne peut pas parler au nom du bourgeois discoureur, on ne peut pas parler au nom de la révolution manquée. Donc pas moyen de poétiser, pas moyen d'idéaliser. Sont-ils donc si poétiques qu'il faille vous les transfigurer? Et alors, que reste-t-il? Je poursuis ma lecture. Nous ne pouvons aujourd'hui que nous moquer. La raillerie est toute la littérature des sociétés expirantes. Donc voilà un ton qui est posé, hein, et qui est le ton, effectivement, de la littérature réaliste. Encore une fois, ça pourrait aussi s'appliquer à Stendhal, et aussi bien dans la génération suivante, à Flaubert. Donc Balzac pose ici le roman moderne, œuvre ouverte à l'écart des idéologies préexistantes, à l'écart des valeurs établies. Un roman qui n'est pas là pour confirmer des convictions, mais pour inquiéter les opinions. Donc sa mission n'est pas de donner des réponses, j'écris à la lueur de deux vérités éternelles, la religion, la monarchie, mais de poser des questions. Et tel fut sans doute, en plein romantisme, la grande révolution du roman, apportée donc par cette œuvre désenchantée de Balzac.